Europe 1, 14h-15h.
Clap. Margot Barallon.
Toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des plus célèbres super-héros Marvel. Spider-Man tisse sa toile depuis près de 60 ans dans des comics, des séries et au cinéma, bien sûr. Le dernier film qui raconte ses aventures, Far From Home, vient d'arriver sur la plateforme MyCanal. Mais pourquoi l'homme-araignée est-il si populaire au point d'être aujourd'hui une véritable icône de la pop culture ? Que raconte-t-il de la société ? Comment l'inspire-t-il jusque dans des discours politiques ? Je vous raconte tout ça dans un instant et Xavier Fournier, spécialiste des super-héros, sera ensuite mon invité. À 14h30, c'est l'actrice Aïssa Maïga qui remontera le fil des films de sa vie. Elle nous racontera par exemple son meilleur souvenir en salle.
Loin de la civilisation empoisonnée, il fuit et seul arpente la terre pour se perdre en pleine nature.
La poésie tragique d'Into the Wild, réalisée par Sean Penn. Et pour découvrir les autres films de la vie d'Aïssa Maïga, rendez-vous donc à 14h30. En fin d'émission, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des dernières sorties DVD, VOD et sur les plateformes. On vous parlera d'Eléonore sur OCS, de Night in Paradise, film coréen disponible sur Netflix, du film d'animation Calamity Jane qui sort en DVD et de Je ne rêve que de vous, diffusé sur MyCanal. Voilà pour le programme de Clap et tout de suite le récit sur Spider-Man, le plus humain de tous les super-héros.
Europe 1. Le récit.
Sous ses airs d'éternel adolescent, Peter Parker, alias Spider-Man, s'apprête pourtant à fêter ses 60 ans. Nous sommes en août 1962 lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy, édité par Marvel. Steve Ditko dessine son fameux costume rouge et bleu et Stan Lee lui invente une histoire désormais bien connue. Celle d'un jeune garçon mordu par une araignée radioactive qui va développer des super-pouvoirs.
Nous combinons l'ensemble du patrimoine de trois espèces dans ces 15 super-araignées génétiquement modifiées.
Il n'y en a que 14.
Je vous demande pardon ?
Il en manque une.
Ouais.
Le succès est immédiat et dès 1963, Spider-Man a sa propre série de comics. En France, il faudra attendre 1969 pour faire connaissance avec celui qu'on appelle alors l'homme-araignée ou araignée tout court. Mais aux États-Unis, Spider-Man va toucher un public bien plus large dès 1967. 88% des Américains sont alors équipés d'un poste de télévision et peuvent découvrir un générique resté dans les annales.
Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
C'est la toute première adaptation des aventures de Spider-Man en série télévisée. En France, TF1 la diffuse seulement 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, elle a pris un sacré coup de vieux. Le budget est minimal, l'animation très peu développée, et surtout, il existe alors un organisme de contrôle des histoires de super-héros. Le Comics Code Authority interdit par exemple de montrer de la violence ou du sexe, et oblige les auteurs à toujours faire triompher le bien face au mal. Mais dans les années 90, ce code n'est plus du tout appliqué. Une autre série, moins enfantine, beaucoup plus fidèle à l'univers des Marvel, voit donc le jour. L'époque est faste pour les comics, les jeux vidéo et les séries de super-héros. Batman, la série animée, vient de sortir. Les X-Men aussi ont eu droit à leur adaptation sur petit écran. Quand Spider-Man, l'homme-araignée, sort en 1994, le contexte est idéal.
Brock, plus tu me détestes et plus cette créature te contrôle.
Pourquoi dis-tu que Brock te déteste ? En réalité, il t'adore. Tu es même son ennemi préféré. La vengeance est un trait du caractère humain qui me plaît beaucoup. Je me vengerai de toi et tes proches aussi subiront ma colère.
Stan Lee, le créateur de Spider-Man, contribue régulièrement à la série. Et la popularité de l'homme-araignée ne cesse de grandir. Hollywood l'a vite compris et dès 2002, les aventures de Peter Parker sont adaptées au cinéma.
Qui je suis ? Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker, et moi aussi j'ai une mission.
Sam Raimi, le réalisateur, arrive à saisir tout ce qui différencie Spider-Man des autres super-héros. D'abord, il est jeune. Lorsque Stan Lee a imaginé l'histoire d'un ado de 15 ans, encore lycéen, il a d'ailleurs pris un vrai risque. Peter Parker va à l'école. C'est le petit geek de la classe dont tout le monde se moque. Il est livreur de pizza et photographe en parallèle de ses études. Et surtout, comme des milliers d'ados dans le monde, il galère avec les filles.
Bonjour MJ. Je sais pas si t'es au courant, mais on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait sortir ensemble un soir. On pourrait peut-être s'amuser un peu. Oh, j'en sais rien. Enfin, je pense que ce serait bien.
Peter Parker voit aussi son corps changer sous les effets de la morsure de l'araignée. Il doit apprendre à contrôler ses super-pouvoirs en même temps qu'il devient un homme. L'adolescence, cet âge si ingrat, trouve son illustration parfaite.
C'est bizarre. Mon pantalon a rétréci.
J'ai attrapé la puberté.
Attends, pourquoi la voix dans ma tête parle si fort?
Wow, tout va bien?
Quoi?
Pourquoi je transpire comme ça?
Pourquoi tu transpires comme ça?
C'est un coup de la puberté. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis pas en pleine puberté. Je l'ai eu, hein. Mais ça fait longtemps.
Je suis un homme, maintenant.
Finalement, Spider-Man est peut-être le plus humain de tous les super-héros. Le processus d'identification fonctionne à plein. Ce n'est pas pour rien s'il reste l'un des personnages Marvel préférés des fans, qui sont nombreux à emprunter son costume, par exemple au Comic-Con, le festival du comics.
Bah, moi, je ne me déguise pas parce que je suis Spider-Man, en fait. Du coup, je ne prends pas de plaisir parce que c'est mon métier. En fait. Je vais sauver les gens. Des fois, je meurs, des fois, je meurs pas. On s'y habitue, hein, c'est comme une seconde peau, un peu.
Plus encore qu'un personnage auquel on peut s'identifier, Spider-Man est un modèle. Stan Lee a créé un jeune homme égoïste et un peu paresseux qui choisit de devenir un super-héros dévoué et responsable. Et Spider-Man ne combat pas uniquement des super-vilains. C'est aussi celui qui aide les petites vieilles à traverser la rue et qui arrête les voleurs de vélo.
Je veux dire, je crois que ce serait mieux pour l'instant que je fasse profil bas, que je me contente d'être la petite araignée sympa du quartier. Vous savez, il faut bien que quelqu'un s'occupe des gens de la rue.
Oui, je kiffe ce genre de héros prolétaire à la Bruce Springsteen. Happy va te ramener.
Merci, Monsieur Stark.
Oui, très bien, Monsieur Parker.
Un de ces jours.
Ça marche.
La petite araignée du quartier est tellement vertueuse que dans les années 70, le ministère de la Santé américain va passer un accord avec Stan Lee pour faire de Spider-Man une figure de la lutte contre la drogue. Le super-héros est un exemple pour les enfants. Sa morale, inscrite à la fin du tout premier comics de 1962, est reprise dans les films et d'ailleurs restée très célèbre.
Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Un super-héros toujours vertueux qui parle au peuple, Spider-Man avait tout pour inspirer nos politiques. Beaucoup ont donc repris la fameuse maxime sur le grand pouvoir et les grandes responsabilités. Emmanuel Morel, candidat socialiste à la primaire de la gauche en 2016, la ministre déléguée Marlène Schiappa pour parler du pouvoir de Twitter, ou encore François Ruffin, député France Insoumise, dans un discours à l'Assemblée nationale.
Dans le film Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces firmes disposent d'une puissance qui égale et parfois dépasse les États. Elles ont entre leurs mains le sort de milliers, de dizaines de milliers de salariés, mais ne veulent aucune responsabilité.
Il ne faut pas oublier non plus que par rapport aux autres super-héros, Spider-Man n'a pas de pouvoir titanesque. C'est ça aussi qui le rend humain. Superman déplace des planètes. Thor, inspiré du dieu scandinave, contrôle des éléments comme la foudre ou le vent. Ils sont des élus, des créatures divines au pouvoir surpuissant. Là où Spider-Man est un jeune homme normal. Ses pouvoirs lui viennent par accident, il fabrique lui-même son costume et il est loin d'avoir la carrure d'un super-héros invincible.
Navré, y a pas de catégorie poids-plume, mon lapin. Suivant.
Non, non, inscrivez-moi.
D'accord. Le NYWL ne sera pas responsable de vos blessures éventuelles, pour ne pas dire probables ou même certaines durant le match. Vous certifiez participer de votre plein gré?
Oui.
Descendez jusqu'au ring et que Dieu vous protège. Suivant.
Ce côté réaliste et ancré dans notre société s'appuie aussi sur un levier qui lui assure son succès, l'humour.
Cool, votre déguisement.
Merci.
D'où il vient?
C'est moi qui l'ai fabriqué.
Il n'a pas l'air très confortable.
Non, il me donne des démangeaisons. Il a tendance à remonter un peu à l'entrejambe.
là où Batman, à contrario, est une montagne de sérieux.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Mon visage sur un billet de banque.
Vous devez plaisanter.
J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante.
T'es cinglé.
La deuxième saga, avec l'acteur Andrew Garfield, aura moins de succès critique et public. Mais Hollywood, qui connaît l'attachement du public envers son héros, a tout prévu. Nathalie Chouraki, directrice de l'agence Casachoc, spécialisée dans les licences et les produits dérivés, l'expliquait au micro d'Europe 1.
Une licence comme Spider-Man, c'est ce qu'on peut appeler une licence pérenne. C'est-à-dire qu'elle existe depuis X années, on n'a pas besoin d'expliquer d'où il vient, où il va, quel est son contenu, etc. Il faut donc l'animer. On crée un événement. La sortie du film, elle est judicieusement placée au mois de mai, ce qui va permettre au DVD de sortir à la Toussaint et d'assurer une visibilité, une envie d'association avec le personnage jusqu'à Noël.
À partir de 2016, un troisième Spider-Man apparaît à l'écran, intégré dans la série des Avengers. Même humour, même souci de réalisme, et pour la première fois, l'acteur qui incarne Peter Parker, Tom Holland, a l'âge du personnage. En 2017 sort Spider-Man Homecoming, premier volet d'une nouvelle saga consacrée à l'homme-araignée. Peter Parker est un ado de sa génération, accro à son téléphone portable et aux réseaux sociaux.
New York, le Queens. C'est un quartier chaud, mais bon, c'est chez moi.
À qui tu parles ?
À personne. Je fais juste une petite vidéo du voyage.
Tu sais que tu dois la montrer à personne.
Ouais, je sais. Bon, il y a Captain America, Iron Man, Black Widow. Oh, c'est qui le nouveau là ?
Colin, à toi !
Ah, c'est moi ! Faut que j'y aille !
La recette fonctionne. Le film rapporte plus de 250 millions de dollars dans le monde et se permet quelques libertés. Le meilleur ami de Peter Parker, par exemple, est au courant presque immédiatement de sa véritable identité.
Oh, non, elle est au courant de rien.
Personne n'est au courant. Enfin si, Monsieur Stark, vu qu'il a fait le costume, mais y'a que lui.
Non, Tony Stark, t'as fabriqué ce truc.
T'es un Avenger.
Ouais,
on peut dire ça.
Bon, écoute, faut surtout t'en parler à personne. Il faut que ça reste secret.
Ok. Il faut que je t'avoue un truc. Je serais incapable de me taire, c'est le truc le plus énorme que j'ai jamais vécu.
Ned, Ned doit rien savoir. Tu sais comment elle est. Si elle découvre que des brutes essaient de me tuer chaque nuit, elle voudra plus me laisser sortir. Le dis pas, s'il te plaît.
Les créateurs de Spider-Man essaient donc d'inscrire leur héros dans son époque. Après l'élection de Barack Obama, en 2008, commence à germer l'idée d'un Spider-Man métis.
Je lance un avis de recherche pour un nouveau Spider-Man.
Le comédien Donald Glover est approché pour la deuxième saga, mais c'est finalement Andrew Garfield qui obtient le rôle. Dès 2011, Miles Morales, un jeune ado de Brooklyn afro-latino, fait son apparition dans les comics. En 2018, il a droit à son propre film d'animation, Spider-Man New Generation.
Allez, je vous la refais une dernière fois. Je m'appelle Peter Benjamin Parker. J'ai été mordu par une araignée radioactive et pendant les 22 dernières années, j'ai cru que j'étais le seul et unique Spider-Man.
Quand ce truc bizarre se produit.
Et je peux vous dire que le truc bizarre, ça me connaît. Mais alors là, franchement, c'était bizarre.
Spider-Man est donc devenu cette indémodable icône pop depuis près de 60 ans. Il a su aussi évoluer en même temps que la société. Mais a-t-on encore besoin des super-héros en 2021 ? Pourquoi reste-t-il si populaire ? Pour en parler, j'accueille dans un instant l'écrivain et scénariste Xavier Fournier, ancien rédacteur en chef du magazine Comic Box, grand spécialiste des super-héros. Mais avant, on écoute un extrait de la bande originale du premier Spider-Man de Sam Raimi, The Hives, Hate to Say I Told You So.
14h-15h sur Europe 1, clap.
I'm gonna die. I feel what's the last of us, 'cause all I know is
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. Juste avant la pub, je vous racontais justement l'histoire de Spider-Man, le plus humain de tous les super-héros. Et pour en parler, j'accueille maintenant Xavier Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, scénariste, incollable sur les super-héros. Alors pour revenir d'abord à notre homme araignée, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'engouement pour Spider-Man, en particulier par rapport à ses autres collègues super-héros ?
Je pense qu'il y a une sorte de rendez-vous accidentel qui est que quand les forces vives de Marvel ont lancé Spider-Man au début des années 60, ils ont fait plein de choix un petit peu aléatoires, mais qui ont été dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, pour la première fois, vous avez un super-héros qui est adolescent, teenager, et qui n'est pas l'assistant d'un héros adulte préexistant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des personnages comme Robin, l'auxiliaire de Batman, et il y avait toujours cette espèce de lien un peu boy scout où il y a le héros adulte qui explique aux jeunes comment faire. Là, on a le petit jeune qui est le propre héros de ses aventures, et qui apparaît dans une décennie où finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans les années 60, va y avoir cette jeunesse qui va être un petit peu en révolte contre les générations précédentes, qui va pas vouloir aller au Vietnam, qui va pas vouloir forcément faire des études de la même manière qu'on les faisait avant, qui va un peu entrer en ébullition. Et le fait que Spider-Man soit un héros adolescent qui, par la force des choses, souvent affronte des menaces, des criminels qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père, dans la symbolique des choses, eh ben ça positionne non seulement Spider-Man, mais il faut bien comprendre qu'il y a Peter Parker qui fait tout l'intérêt de Spider-Man à l'intérieur du costume. Ça positionne le héros pour être ce symbole d'une jeunesse un peu qui n'est pas dans le même temps que les générations qui ont précédé.
Alors, Spider-Man, il a aussi eu droit à plus de films que les autres. Il y a eu 3 reboots, dont 3 sagas différentes en seulement 15 ans. C'est énorme. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de choses à raconter ou est-ce que c'est une pure logique commerciale ?
Quand on sort des films, et surtout des films de ce budget-là, je me garderais bien de dire qu'il n'y a pas une logique commerciale derrière. Ça serait complètement naïf de pas le penser. Mais Spider-Man étant un héros de la jeunesse, plus souvent les studios essayent de se dire, si on change l'acteur, on va réinventer l'origine. Et c'est ce qui n'a pas forcément marché avec les deux films de la version Amazing Spider-Man, où fondamentalement, les premiers films avaient très bien vieilli, continuent d'être diffusés à la télé, et donc il y a plein d'enfants qui ça reste le Spider-Man de référence, et vouloir réinventer si tôt l'origine, c'est sans doute quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire et qui a été interprété un peu comme quelque chose de concurrentiel avec le vrai Spider-Man.
Alors, la plupart des super-héros aujourd'hui commencent à être âgés. Hein. Spider-Man va sur ses 60 ans, Batman il en a 82, Superman bientôt 90. Qu'est-ce qui explique que tout cela n'ait pas encore pris leur retraite ?
D'abord, principalement parce qu'il y a un public qui continue de s'identifier là-dedans, et puis que par la force des choses aussi, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a plein de personnages, y compris de super-héros, qui ont fait leur temps, qui ont disparu, et comme ni le personnage n'a continué, ni le public n'est encore là pour se souvenir du personnage. Voilà, il y a plein de super-héros qui ont disparu sur le champ de bataille. La force quand même de Superman, Batman, Spider-Man maintenant, c'est qu'on arrive à un moment à une certaine vitesse de libération, c'est-à-dire que on a des personnages qui sont multigénérationnels. Dans certaines familles aux États-Unis et sans doute ailleurs dans le monde, il y a trois générations de lecteurs du personnage, qui fait que ça devient des sujets de conversation, que petit à petit, des personnages qui ont commencé comme des héros de la contre-culture sont devenus aussi finalement une culture intergénérationnelle, ce qui est un paradoxe par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Spider-Man. Mais fondamentalement, c'est devenu des sujets de discussion. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui sortir d'une projection d'un film Warner ou Disney de super-héros et en discuter comme entre différents spectateurs de la vie du film, ce qui n'était pas forcément le cas à une époque et jusqu'à peut-être 2 décennies en arrière, les films de super-héros c'était vraiment quelque chose qui visait un public spécialisé et c'était pratiquement presque un secret honteux.
Et alors, la question, ça peut paraître un peu paradoxal, mais est-ce qu'en 2021, ces super-héros, quand même, ils portent pas des valeurs un peu obsolètes ? On peut se poser la question, quand on voit un Captain America qui est extrêmement patriotique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu daté ? On se demande comment ils arrivent encore à épouser leur époque en étant au départ tellement ancrés dans la leur, donc plutôt les années 40 en ce qui concerne Captain America.
Ben, il faut comprendre un petit peu. Il y a souvent un risque de quiproquo avec le super-héros, c'est qu'on se dit que ce sont des outils de peut-être d'autosatisfaction du système, de propagande, que ça consacre la puissance des États-Unis. Mais souvent, ce sont des personnages beaucoup plus critiques que ce que nous on a en Europe. Voilà, c'est-à-dire que je trouve que les comics, en fait, ils ont beaucoup de voisinage avec le dessin de presse tel qu'on pratique en France. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute plus proches parfois de Charlie Hebdo que de personnages comme Tintin ou des trucs comme ça. Il y a toujours une espèce de petit goût de poivre derrière la fiction pour expliquer quand même qu'il y a un fond de réalité et qu'il faut pas se satisfaire de ce qu'on nous explique.
Et est-ce que selon vous aujourd'hui on a encore besoin des super-héros?
Il y a deux réponses à cette question. On ne devrait pas en avoir besoin tant qu'on a besoin de se réfugier dans la fiction pour chercher des solutions à la réalité, c'est bien qu'il y a un problème. Mais les super-héros, je crois qu'il faut vraiment les prendre comme un thermomètre de l'état d'âme. Je crois que si on se replonge dans nos anciens cours d'histoire, on apprend un petit peu ce qu'était la culture grecque ou la culture égyptienne en s'intéressant à leur panthéon, alors que bien entendu il n'y avait pas vraiment de personnages comme ça qui existaient. Et fondamentalement, les super-héros, c'est une sorte de panthéon laïque qui permet un petit peu sous forme de fiction, sous forme de rébus, de parler un petit peu des choses qui nous animent et de fantasmes. Alors c'est pas vraiment qu'on rêve de personnages qui peuvent voler dans le ciel, mais la vraie fable des super-héros, c'est pas forcément le super-pouvoir, c'est imaginer que Superman ou Captain America, indépendamment de leur super-pouvoir, ils aient la puissance d'agir, mais qu'ils l'utilisent pour le bien. Et si tous les puissants du monde utilisaient cette puissance dans le sens du bien, je pense qu'on aurait un autre monde.
Très bien, merci beaucoup Xavier Fournier d'avoir accepté l'invitation de Clap. On va donc continuer d'espérer que les puissants de ce monde aient une moralité. Dans un instant, on se retrouve pour le questionnaire Les films de ma vie. On va plonger dans les souvenirs de cinéma de l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. C'est l'heure des films de ma vie. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio l'actrice et réalisatrice désormais, Aïssa Maïga. Bonjour.
Bonjour.
On vous a vu récemment dans 9 Meufs, une mini-série toujours disponible sur MyCanal. C'est également sur MyCanal qu'on peut voir Regard Noir, un documentaire passionnant que vous avez co-réalisé et dans lequel vous disséquez le racisme systémique dans le milieu du cinéma. Et puis vous êtes l'invité d'honneur du festival Films de Femmes qui se déroule en ligne jusqu'à demain. Alors aujourd'hui, vous allez nous raconter vos souvenirs de cinéma, les films qui vous ont bercé, accompagné, ouvert les yeux aussi peut-être. Est-ce que vous êtes prête ?
Prête.
Alors c'est parti. Votre meilleur souvenir en salle ?
Alors, je dirais qu'il y a eu Into the Wild de Sean Penn. En fait, j'ai été vraiment bouleversée par le film, surtout dans sa deuxième moitié, lorsque le personnage qui s'est perdu volontairement dans les grands espaces commence à comprendre petit à petit qu'en fait il n'en repartira pas.
Et je sais aussi que dans la vie, le plus important ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. De se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seule la nature aveugle et sourde. Sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête.
Et pour plein de raisons, notamment des raisons liées à l'esthétique du film, à son rythme, à son jusqu'au boutisme aussi, à la performance incroyable de l'acteur principal. Et pour des raisons aussi très personnelles, je ne pouvais pas me lever à la fin du film. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si c'est mon meilleur, mais en tout cas, c'est un des plus marquants. Ouais.
Votre pire souvenir en salle, Aïssa Maïga ?
Alors, j'étais à Bamako. Et je vais voir Ennemi d'État, je crois. Donc, il faut imaginer quand même une très grande salle, beaucoup de spectateurs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de très fréquentes coupures d'électricité.
Le téléphone était équipé d'un positionneur satellite cadencé à 24 GHz.
Je ne sais même pas ce que ça veut
dire.
C'est
un genre de sonar. La direction de la sécurité nationale surveille le monde entier. Fax, téléphone,
satellites, communications. Ce sont les seuls dans le pays, y compris les militaires, qui peuvent disposer de ce genre d'engin.
Pourquoi ils en ont après moi ?
J'en sais rien, je veux pas le savoir.
Et donc vous regardez un film qui est hyper haletant, avec un suspense, mais à la limite du soutenable. Et genre, tous les quarts d'heure, il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus de fuite. Non mais j'ai cru que j'allais crever, quoi. C'était... Ah, c'était insupportable, c'était insupportable. Mais je vais revenir à la question d'avant. Un des meilleurs souvenirs de cinéma, vous allez rire, c'est « Maman, j'ai raté l'avion » au Zimbabwe.
Marvin ? Harry ? Mais pourquoi t'as retiré tes pompes ?
Et pourquoi t'es déguisé en poulet ?
Hé les gars, vous abandonnez ou vous en refoulez encore ?
Parce que dans la salle, les gens parlaient à Macaulay Culkin, donc l'enfant de « Maman, j'ai raté l'avion », pour lui dire où se cachaient les voleurs, où étaient les méchants, ce qu'ils devaient faire, etc.
Pêche-toi ! T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener.
Je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que vraiment...
Les gens vivaient le film.
Non, mais c'était un truc de ouf. Et ouais, voilà. En vrac, les souvenirs.
Le chef-d'œuvre que vous détestez.
Oh, je dirais Orange Mécanique. Ça, c'est vraiment un film... ouais, j'ai essayé de le voir deux fois et je sais pas, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas, ça ne me parle pas, ça, je ressens même un rejet quasi total.
Et vous sauriez dire pourquoi ?
Je sais, j'aime pas.
C'est simple.
Ça, c'est de l'argumentation. Non, je sais pas, faudrait que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais je dirais que... Je sais pas, une forme de cynisme ou de... Je sais pas, un truc...
Qui vous met mal à l'aise.
Ouais. Et pourtant, j'ai pas de problème avec le fait d'être parfois mise mal à l'aise par un film. Ça peut même faire partie du plaisir du cinéma. Je sais pas, toute cette esthétique, je sais pas, ça, je fais un rejet, voilà.
Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes trois droguises, c'est-à-dire Pete, Georgie et Jim. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rasoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du lait plus. Lait plus Vélocette, ou Saint-Émesque, ou Drinkron. Nous, on en était au Drinkron. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence.
Le film que vous avez le plus vu ?
Les 400 coups de François Truffaut, sans hésitation. Je parle pas des films qu'ont vu mes enfants et que par la force des choses, j'ai vu des centaines de fois.
On sent un petit traumatisme.
Ou mes petits frères aussi. Bon, ça laisse de très très beaux souvenirs. Mais le film que volontairement j'ai vu énormément de fois, c'était Les 400 coups de Truffaut. Et je l'ai regardé, j'avais à peu près l'âge d'Antoine Doinel, donc le personnage principal. J'étais adolescente et j'ai découvert un film qui avait été tourné bien avant ma naissance, mais qui était moderne comme ma vie. Et pourtant, enfin ma vie, on a toujours l'impression quand on est ado qu'on vit une vie hyper moderne, n'est-ce pas ? Enfin, ça me semblait très actuel et pourtant c'était tourné en noir et blanc. Je connaissais rien au cinéma, je savais pas du tout que j'allais devenir actrice. Mais parfois, je me rappelle, je rentrais de l'école hyper vite pour regarder Les 400 coups de Truffaut.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère ?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Et je trouvais que, je l'aurais pas dit comme ça à l'époque, mais que le personnage ne jouait pas en fait. Parfois ça avait l'air d'être un documentaire. Et ça, je trouvais ça incroyable.
Le film qui vous a fait le plus rire, Aïssa Maïga ?
Bon, récemment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri devant Tout simplement Noir, de Jean-Pascal Sadi. Ah non, mais là... Oh, puis c'est arrivé vraiment à un moment où on avait un peu besoin de se détendre quand même.
Oh,
attention, please, attention, please.
Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martha Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
On va pas dire interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés.
Ils vont se frapper.
Ouais. Non, ils vont pas se faire frapper, du tout.
Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà.
Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens.
Soirée entre
nous. On va niquer votre marche de renom.
J'ai dit une connerie.
Sur fond quand même d'éclatement de cette histoire de meurtre en direct de George Floyd et de tout ce que ça a provoqué derrière, de marche dans le, sur la planète entière, de personnes qui ont voulu dire stop au racisme anti-noir de façon très ferme, très visible, très, très unie aussi. Et donc ce film, il appartient aussi à ce contexte-là. Il a répondu à un moment. Et les films, c'est aussi fait pour ça, parfois, pour répondre au réel de façon assez tranchante, enfin incisive en tout cas. Et moi, je suis très très fan de Jean-Pascal Zadi et de l'autodérision qu'il a aussi par rapport à son propre personnage. Je sais pas, il me fait rire, quoi. Sa tête, bon, évidemment, ses dents, son sourire et la façon dont il l'use, pour moi, c'est comme... une sorte de Buster Keaton un peu immobile, quoi. C'est-à-dire que la prouesse, c'est lui, il a rien à faire. Il est très, très fort.
Faut être soudé, faut être franc, faut se parler sans filtre. Et tiens, en parlant de parler sans filtre, si je peux me permettre, hein, deux secondes, ton spectacle que tu fais sur scène, là, ouais. L'accent africain, tes danses que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non?
C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ferme ta bouche, là. Avec tes dents qui sortent, là, t'arrives même pas à les rentrer.
Wow.
Le film qui vous a fait le plus pleurer?
Alors, c'est un film d'animation, Le tombeau des Lucioles. Oh mon Dieu.
La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort.
Bon, là, on est au Japon, et c'est cette famille qui est éclatée du fait de la guerre. Et ce grand frère qui a une dizaine d'années, 12 ans peut-être, qui doit s'occuper de sa petite sœur qui a à peu près 5 ans, 6 ans. Et ils sont tout ce qu'ils ont. Ils sont tout l'un pour l'autre. Et ils décident d'essayer de lui adoucir la vie comme... Oh mais rien que d'en parler, je vous jure, ça me donne envie de... Enfin, ça, c'est un film qui est... Et donc son... le papa du tombeau des Lucioles... Le réalisateur est décédé il y a 2 ou 3 ans. C'est marrant, et c'est, on a ça parfois avec les artistes, ce sentiment de proximité, alors que voilà, c'est un monsieur japonais que j'ai jamais rencontré, mais j'ai senti un vrai sentiment de perte quand il est parti.
Et si on attrapait des lucioles?
Je termine avec la question, la bande originale de votre vie.
La musique du parrain, elle est quand même intemporelle.
Bien, je vous propose de l'écouter. Aïssa Maïga,
avec
merci
plaisir.
Beaucoup.
Merci.
Aïssa Maïga, merci beaucoup d'être venu dans le studio de Clap. Je rappelle qu'on peut toujours voir votre documentaire Regard Noir sur MyCanal et que vous êtes invité d'honneur du festival Films de Femmes, festival qui se déroule donc en ligne jusqu'à demain. Et les femmes réalisatrices seront justement à l'honneur dans Clap. Ce sera notre récit la semaine prochaine.
Clap. Margot Barallon fait son cinéma sur Europe 1.
Il viennent de prendre place dans le studio de Clap pour débattre des dernières sorties VOD, DVD et sur les plateformes. J'accueille aujourd'hui Marilyn Letertre, journaliste à Madame Figaro, et Thierry Chaise, rédacteur en chef de Première. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors au programme aujourd'hui, la sortie d'Eléonore sur OCS, The Night in Paradise sur Netflix, Je ne rêve que de vous sur MyCanal, et puis le film d'animation Calamity qui sort lui en DVD. Alors je vous propose de commencer avec un film inédit, Night in Paradise, un film de gangster coréen disponible sur Netflix. Don't you remember what I told you? Dumping weapons like this doesn't sit well with some. They made me a deal. Booksong said if I got rid of you, I could deal with the Russians. Go on, finish him off. We don't have all day. C'est réalisé par Park Hong-jung et c'est donc l'histoire de Taegu, un gangster qui, au début du film, aimerait bien se ranger des voitures pour s'occuper de sa sœur malade. Sauf qu'un clan rival du sien assassine cette sœur et la nièce de Taegu. Notre héros va donc se cacher sur une île en attendant de pouvoir fuir vers la Russie. Et là, il va rencontrer une jeune femme, se noue une relation un petit peu particulière. Marilyn Letertre, votre avis ?
Alors, mon avis, c'est que dans le cinéma coréen, il y a Parasite, il y a Old Boy, il y a Dernier Train pour Busan et il y a Le Tout Venant. Le Tout Venant, c'est ça. Voilà, ça se consomme, mais surtout, ne cherchons ni vraisemblance, ni originalité, voilà, parce qu'il n'y a pas tout ça. C'est extrêmement violent, évidemment, mais ça, c'est un peu une marque de fabrique du cinéma coréen, en tout cas dans ce genre-là. Donc, c'est violent et totalement donc invraisemblable, puisque les mecs se prennent quand même, allez, 25 coups de couteau et 12 balles dans le bide, et ils respirent encore. Et ils en ont encore pour toujours se battre. Ça en devient franchement assez risible par moment. Là-dessus, on nous rajoute des petits violons avec une espèce de petite amourette avec la jeune femme qu'il va rencontrer sur cette île. Et en fait, rien ne prend. La mayonnaise prend pas du tout. On n'est pas du tout ému. Enfin voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça violent et violent.
Eh bien, je vous trouve un petit peu dur, Marilyn Letertre. Moi, je vais trouver des qualités, Thierry Chaise.
Je suis un peu d'accord. Alors, après, ça, c'est vrai que comme ce qu'on voit n'est pas terrible, j'ai tendance à rehausser celui-là. Mais, alors, c'est un film Netflix, donc comme souvent, c'est très long. C'est très, très long. C'est 2h15 et vraiment, c'est trop long. Mais moi, je dois avouer que c'est mon côté cœur d'artichaut, mais ce côté un peu romantique au milieu du voilà, ce thriller romantique m'a touché par moments. C'est deux personnes qui sont condamnés à mourir quasiment ensemble. Il y a quand même des scènes assez de baston, assez réussies et tout. Alors, non, ça n'est pas Parasite. Non, ça n'est pas de ce niveau-là. Mais ça se laisse regarder.
Si ça
avait fait 20 minutes de moins, ça aurait été encore mieux.
40.
Voilà. Mais c'était sélectionné à la Mostra de Venise, quand même. Hein.
Oui, c'est, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, Thierry Chaise, notamment cette scène à la sortie de l'aéroport de course-poursuite, qui est quand même magnifique.
Voilà, c'est quand même... Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. Alors, ou pas. On se mettra pas d'accord aujourd'hui. Si vous voulez vous remettre après un thriller coréen ultra-violent, on va changer complètement de genre avec une petite comédie française, Eléonore sur OCS. Là, derrière la caméra, on retrouve pour sa première Amro Hamzaoui, et devant la caméra, dans le rôle-titre, sa sœur, l'humoriste Nora Hamzaoui.
Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette.
J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot.
Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait, maintenant.
Vous pensez être une psychopathe ?
Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses. Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte.
Le premier pas doit venir d'elle, maman. C'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur. Hein ?
Alors, on l'entend, Éléonore est donc une trentenaire déprimée, un peu paumée. Son rêve, c'est d'écrire un roman, sauf que ça ne marche pas très bien. Sa mère et sa sœur ont d'autres rêves pour elle, d'ailleurs, un boulot stable et un mec riche. Sous leur pression, Éléonore cherche donc les deux et elle se fait embaucher comme assistante dans une maison d'édition de livres érotiques. Thierry Chaise, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ah mais vous avez très bien, une petite comédie. Et en fait, un des mots est vrai, petite. Moi, je n'en reviens pas. Normalement, un premier film, il y a quelque chose d'un peu personnel. Alors, parfois tellement personnel qu'on en est exclu. Mais alors là, c'est un film que j'ai vu 1 milliard de fois récemment. Léonore Serraille, avec Jeune fille, tout le travail Justine Trier. Donc, il n'est pas, lui, à la hauteur de ses réalisatrices. Et Nora Hamzaoui n'est pas non plus Virginie Efira. Donc, on se dit, ah ben oui, tiens, j'ai vu ça. Mais c'était bien mieux, en fait. Ah oui, tiens, mais ça, j'ai vu ça aussi. Ah ben, c'était bien mieux. C'est une sorte de pâle copie, voilà, et comme on copie parfois des sacs de luxe, et bien là on copie des très bons films et ça donne vraiment quelque chose de très 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 poussif, pas drôle. Et de nouveau, le milieu de l'édition, il y a vraiment un problème, on ne sait jamais le représenter à l'écran, c'est de nouveau raté. Moi j'ai trouvé ça catastrophique pour tout dire. Voilà.
Marie-Léna Tartre, est-ce que vous allez le sauver?
Ah bah en tout cas, là pour le coup, je vais être moins dure que Thierry, c'est sûr. Je suis d'accord sur la mise en scène. La mise en scène, le problème, c'est qu'elle est brouillonne, elle n'est pas très inspirée. Et donc, effectivement, ça nous empêche un peu d'être totalement embarqués dans le film. En revanche, moi, je sauve totalement Nora Hamzaoui, que je trouve très juste. Je trouve que c'est la promesse d'un avenir qui pourrait être un petit peu réjouissant sur les écrans. Voilà, et puis je trouve qu'on a beaucoup dit au moment de la sortie du film que c'était en gros un copier-coller de ce qu'elle faisait sur scène. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que le film, là, est beaucoup plus dans la mélancolie. D'ailleurs, vous dites que c'est une comédie. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. C'est vendu amère, comme une comédie, mais c'est plutôt une dramédie ou une comédie douce amère. donc voilà, donc il y a ça aussi. Je pense que pour que les gens ne soient pas déçus, il ne faut pas qu'ils s'attendent à une comédie, à un sketch de Nora Hamzaoui sur grand écran. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, elle campe un personnage qui est beaucoup plus dans la colère, donc dans la mélancolie, comme je disais, un personnage qui est pas foncièrement sympathique. Et ça, je trouve ça bien. Une fois, on a une héroïne qui ne cherche pas à être toujours jolie, toujours sympa, toujours souriante. Et voilà. Et donc moi, ce qui pêche pour moi, c'est la mise en scène et le scénario qui est très prévisible. Ce que je trouve, c'est vraiment l'actrice.
Très bien. Et donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, Éléonore, c'est donc disponible sur OCS. Et avant cela, on vous a parlé de Night in Paradise sur Netflix. Vous restez avec nous dans la dernière partie de Clap. Vous saurez s'il faut ou non regarder le film d'animation Calamity qui sort en DVD et le drame historique Je ne rêve que de vous. Ça, c'est disponible sur MyCanal. À tout de suite.
Clap. Margot Barallon.
Ils sont toujours avec moi dans le studio de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Marie-Léna Le Tertre de Madame Figaro et Thierry Chaise de Première. Avec eux, on débat des films à voir, à revoir ou à éviter sur les plateformes en VOD et DVD. Et justement, une sortie DVD cette semaine, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, film d'animation réalisé par Rémi Chaillet.
Allez, hey, hey, hop, hop, qui va conduire le chariot?
Moi, je veux bien conduire le chariot, je peux apprendre.
Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Vous employez des filles maintenant?
Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
Calamity Jane.
Alors nous sommes en 1863 aux États-Unis. La jeune Martha Jane, qui deviendra donc plus tard cette célèbre cowgirl Calamity Jane, voyage vers le Grand Ouest avec son père, son frère et sa sœur. Et elle s'aperçoit assez rapidement qu'être une jeune fille, c'est quand même très handicapant. Elle n'a rien de droit de faire. Elle décide donc de se couper les cheveux, de porter des pantalons et de s'affirmer. Alors le film était sorti en salle juste avant la fermeture des cinémas. Acclamé par la critique à l'époque, est-ce que c'était mérité, Marie-Léna Le Tertre ?
Totalement, et acclamé pas uniquement par la critique, puisqu'il a eu aussi le prix à Annecy, au Festival d'Animation. C'est totalement mérité, c'est un western initiatique, féministe, et en fait c'est une héroïne très très inspirante pour le jeune public, puisque effectivement on déconstruit tous les stéréotypes, puisque à une époque où les femmes sont assignées aux menus tâches, aux tâches domestiques et ménagères, elle chevauche, elle porte des pantalons, elle brave tous les dangers, et donc voilà, et le film est emprunt exactement de la même énergie que son héroïne. C'est plein de panache. Au-delà de ça, c'est extrêmement beau. Il y a des aplats de couleurs absolument magnifiques. Voilà, les paysages, on dirait un tableau un peu... je ne vais pas trouver le mot, évidemment, mais les spécialistes le trouveront. Mais c'est très, très beau. Et voilà. Donc, moi, j'ai passé un très, très joli moment. Et un petit mot aussi pour la bande-son du film, qui est bluegrass et qui est signée Florencia Di Concilio et qui amène tout ça aussi dans un rythme assez effréné.
Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec vous, Marie-Léna Le Tertre. Thierry Chaise, est-ce que vous allez nous rejoindre?
Ah oui, ça, non, c'est un régal. Alors... la marche était trop haute cette année pour avoir le César du meilleur film d'animation parce qu'il y avait Joseph. Bon, mm-hmm. Donc c'était compliqué. Mais il n'empêche que c'est une réussite totale parce que, de nouveau, évidemment, tout ce qu'a dit Marilyn sur le jeune public, ça fonctionne totalement. Mais ça n'abétit pas le jeune public, justement.
Ah non,
et des gens
tout.
Beaucoup plus âgés s'accrochent à ça. Un, parce que c'est en effet très très beau. Il y a vraiment un soin apporté à toute cette atmosphère qui est formidable. Ensuite, il y a un message à délivrer, mais ce message délivré avec une finesse, une intelligence, une drôlerie. Un jeu avec les voix aussi, je trouve Alexandre Lamy très très bien aussi dans le doublage, qui fait que d'un seul coup, on raconte une histoire. Calamity Jane, on peut raconter ce qu'on veut puisqu'il y a plein de flous. Et je trouve que là, le cinéma tire le meilleur. C'est absolument en ballon, pour le coup. Voilà.
Et c'est un film qui parlera à tout le monde, les petits et les grands. Très bien, une belle unanimité dans le studio de Clap autour de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et alors, on termine avec Je ne rêve que de vous, de Laurent Henneman, film historique consacré cette fois à la dernière femme de Léon Blum. C'est disponible sur MyCanal et on écoute un extrait.
C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard?
Ah, vous êtes là.
Vous n'en faites qu'à votre tête.
Dans ma tête, il y a que vous.
La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher. Il faut que vous quittiez la France.
Je préférerais être en prison avec vous que libre sans vous.
Donc c'est l'actrice Elsa Zilberstein qui joue donc Jeanne Reichenbach, la maîtresse de Léon Blum, qui est lui interprétée par Hippolyte Girardot. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale et elle va tout quitter pour suivre son amant qui va être jugé, va passer de prison en prison et être incarcérée jusqu'au camp de Buchenwald. Marilyn Letertre, qu'est-ce que vous avez pensé de Je ne rêve que de vous ?
Je suis partagée. J'aime beaucoup Elsa Zilberstein, qui je trouve est parfaite dans le rôle de la femme forte qui est prête à tout risquer, sa vie y compris d'ailleurs, par amour. Lui, je suis un petit peu moins convaincue. Et d'ailleurs, je trouve que les scènes qui sont censées refléter la passion du couple sont peut-être celles qui fonctionnent le moins. En revanche, toutes les scènes où elle est en solo, où elle, voilà, où on filme son combat, sont, à mon avis, très réussies. Au-delà de ça, la mise en scène, elle a un petit côté un peu vieillot, un peu plan-plan, assez scolaire, en fait. Et donc, on a du mal à vibrer totalement. Moi, je suis...
Sitôt vu, sitôt oublié.
C'est exactement ça. Sitôt vu, sitôt oublié. D'ailleurs, je l'ai vu il y a un petit moment et je l'ai un petit peu oublié.
Thierry Chaise, est-ce que vous en souvenez ?
Ah oui, mais il y a un côté Hibernatus. Hein. C'est un film qui, sans doute, a été fait dans les années 80, qu'on voit ressurgir. Moi, je trouvais ça... Alors, incroyable que ça sorte en salle, en fait. Quand je l'ai vu, moi, c'était au Festival d'Angoulême, cher à Dominique Besnéa, et je pensais qu'on montrait un téléfilm de bonne facture, voilà,
absolument.
Mais sans plus. C'est quand même un vrai problème, parce que l'histoire est quand même passionnante en soi, importante, et elle est réduite, forcément, par cette réalisation qui, au-delà d'être plan-plan, est même vraiment endormie. Moi, ça me gêne. Et ensuite, je suis entièrement d'accord sur Elsa Zilberstein, qui est vraiment une grande comédienne. Cette année, on va la voir, on l'attend, enfin cette année. Espérons-le. Simone Veil. Voilà, en Simone Veil pour Olivier Dahan. Et ça, voilà, ça va être... Mais je trouve que qu'elle fasse de la comédie, elle avait eu un prix à l'Alpe d'Huez l'année dernière, ou qu'elle soit là, c'est quelqu'un qui est tellement engagé dans ses rôles qu'elle peut faire oublier... Mais là, c'est trop
heureusement
compliqué.
Qu'elle est là.
Oui, mais c'est trop dur. Quoi. Vraiment, le film est trop contre elle. Quoi. Les vents sont trop contraires pour que ça imprime, moi, je trouve.
Très bien. Alors, Je ne rêve que de vous. C'est à voir sur MyCanal, mais vous allez peut-être préférer vous réfugier dans Calamity, très joli film d'animation à retrouver en DVD. Et on vous a également parlé dans cette émission d'Éléonore sur OCS et Night in Paradise sur Netflix. Merci, Marilyn Letertre, journaliste à Madame Figaro. Et merci à vous, Thierry Chaise, rédacteur en chef de Première.
Merci.
Merci.
On vous retrouve bientôt pour de nouvelles critiques tout aussi acérées dans Clap. Merci aussi à Nicolas Baudin qui réalise cette émission et à Marjorie Adelson qui en est à la fois la scénariste et la directrice de casting. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 14h-15h, pour un nouveau Clap. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'émission en podcast et en intégralité sur Europe 1.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Europe 1.